C'est Rémi d'abord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Aujourd'hui, dirigeons-nous vers l'hôpital le plus proche pour un Grey's Anatomy sauce Socrate, pour une digression philosophique, avec une pincée de Freud pour la grivoiserie et un filet de Diogène pour le cynisme. Deux docteurs parlent de la pluie, du beau temps, dissertent sur la vie et la mort, se gaussent de la médecine. Bref, ils évoquent leur douloureux quotidien. Et ça commence un peu comme un cartoon de Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur ?
Bonjour docteur.
Je vous souhaite un bonjour docteur.
Comment allez-vous cher confrère?
On ne peut mieux cher confrère, la maladie progresse avec enthousiasme.
Ah, vous me rassurez, j'avais craint un instant que vous ne fussiez en rémission.
Bien au contraire, j'approche de la tombe un peu plus chaque jour.
Comme tout un chacun cher confrère, la vie est une maladie mortelle dont personne ne connaît d'avance la durée de l'agonie.
Je reconnais bien là, cher confrère, votre sens de la parabole dont l'humour cache, hélas, une terrible réalité. Dans mon cas, l'échéance ne fait qu'approcher un peu plus vite chaque jour.
Ne croyez-vous pas, cher confrère, qu'il est aussi vain pour un médecin de se diagnostiquer qu'un accusé de se défendre lui-même au tribunal ?
Sans doute, j'en conviens. Mais hélas, je suis le seul à comprendre ma maladie et par là même en apprécier l'évolution.
Ah oui, que vous jugez fatale, bien entendu.
Vous l'avez dit vous-même, cher confrère, la vie est une maladie mortelle. Or, je vis. Sans doute plus pour très longtemps, mais je vis.
C'est un point de vue, en effet. Et j'apprécie à sa juste valeur votre célérité à me retourner mes propres arguments. Je peux vous assurer, cher confrère, que si maladie vous avez, elle ne siège certainement pas dans votre cerveau.
Hélas, rien n'est moins sûr. Aucun des examens auxquels j'ai procédé n'ont montré de lésions organiques. Ni dans les membres, ni dans les tissus mous, ni dans la lymphe, ni dans la tête.
Ah, vous voyez, j'avais raison.
Je vous l'accorde, cher confrère. Mais pour l'âme, quel scanner, quel IRM, quelle analyse ? Et si l'âme était le siège de mon mal ?
Alors, cher confrère, ce n'est pas un médecin qu'il nous faut, mais un prêtre.
Un prêtre ! Laissez-moi rire, cher confrère. Comment donc des gens dont le savoir ne repose que sur des écrits aussi approximatifs qu'anonymes libellés dans un jargon abscon et qui ne disposent pour tout bagage que de quelques mots de latin qu'ils n'osent même plus prononcer, comment donc ces pantins autant manipulés que manipulateurs pourraient-ils soigner l'âme dont ils n'ont connaissance que par ouï-dire et dont ils proclament l'existence sans jamais l'avoir observée ?
Je vous concède, cher confrère, que le concept de l'âme ne repose sur aucune observation tangible. Mais c'est aussi le cas de l'antimatière, du Big Bang ou de l'univers infini.
Bien sûr, mais pour les exemples que vous citez, d'authentiques savants en ont pour le moins attesté une quasi-probabilité. Ce qui, loin d'être le cas pour l'âme.
Alors, il faut croire que le diable est un bien prêtre commerçant pour s'être fait refiler en de multiples occasions des trucs qui n'existaient pas.
Oui, sans doute. Mais le vrai salaire du diable dans toutes ces affaires résidait dans la peur inspirée au vendeur par l'acquéreur. Peu importe que Faust ait vendu son âme ou de la fumée à Méphistophélès. Il est tellement torturé par le remords qu'il ne parvient pas à profiter pleinement ni de sa jeunesse retrouvée, ni de l'amour de la belle Marguerite. En réalité, il n'a pas vendu son âme. Il s'est acheté une punition.
Là, cher confrère, je m'incline bien bas. Le concept est on ne peut plus novateur et votre logique imparable.
Merci, cher confrère. Mais je n'ai hélas aucun mérite. Mes nuits sont tellement longues que j'ai tout le temps nécessaire pour cogiter.
Il n'en reste pas moins, cher confrère, que votre maladie de l'âme affûte votre esprit.
Et vous-même, cher confrère, qu'en est-il de votre santé ?
Hélas, mon pauvre ami, je suis une gageure, une énigme pour la science, presque un défi.
J'ai hâte d'en connaître tous les détails.
Je me porte comme un charme, cher confrère, encore que, paraît-il, les charmes ne sont plus ce qu'ils étaient naguère.
Oui, cher confrère, même les arbres souffrent. Pauvre monde.
Je suis un étendard noir pour la profession. Comment un patient pourrait-il accorder sa confiance à un praticien qui regorge de santé ?
Il est vrai que lorsqu'on voit votre mine...
Je ne vous fais pas dire, cher confrère. Mon teint est rose et frais, mes muscles fermes, mon absence de bedaine, mes yeux clairs et mes lèvres roses paraissent autant d'injures aux souffreteux, aux affligés et aux bancals de tout poil.
Il est vrai, cher confrère, que vous ne ressemblez pas à un phare de compassion.
Tout à fait. Et cela nuit fort à ma patientèle. Regardez-vous. Le teint gris, l'œil atone, la peau flasque, le ventre mollasson, les épaules tombantes. Voilà qui fait de vous un praticien sympathique que l'on juge au premier coup d'œil, apte à comprendre toutes les maladies, puisque vous semblez les avoir toutes connues.
À ce point ?
Mais bien entendu, cher confrère, vous êtes une publicité vivante pour les comprimés, les cachets, les injections, les infusions, les décoctions, les infiltrations, les lavements, les saignées, et même les suppositoires.
Les suppositoires ?
Mais oui, cher confrère, savez-vous que, pour le commun des mortels, le suppositoire est un non-sens, une anomalie, une hérésie. Comment donc un traitement entrant par la sortie pourrait-il se montrer d'une quelconque utilité, se demande-t-il, au moment d'introduire l'objet dans l'orifice idoine ? Et c'est justement ce contresens qui confère toute sa grandeur à la pharmacopée, d'abord, et à la médecine ensuite. Car voyez-vous, cher confrère, le patient effectue quand même ce geste absurde en étant persuadé de faire une erreur, mais en espérant néanmoins être guéri.
Je dois vous dire, cher confrère, que votre vision de la médecine me réchauffe le cœur. En hommage à votre brillante démonstration, je m'engage à prescrire désormais des suppositoires chaque fois que la pathologie le permettra. Et je m'engage également à obliger les laboratoires à en fabriquer des suppositoires pour toutes les maladies exclues de cette médication. Et ainsi, cher confrère, nous soignerons toutes les maladies par le cul.
Quelle vision magnifique, quel espoir onirique, quel avenir radieux. Nous guérirons le cancer, la tuberculose, la peste bubonique, le choléra, la fièvre hémorragique à coups de suppositoire.
Oui, bien sûr, mais aussi les angines, les oreillons, le rhume. Oui, même le rhume. Ensuite, on s'attaquera à la scoliose, aux fractures spiralées, à la maladie d'Alzheimer, à la mélancolie.
Nous étudierons de nouvelles formes, des profils innovants.
Il y aura des concaves, des convexes, des carrés, des biseautés. Il y aura des outils spécialement étudiés pour les introduire au plus près du mal.
Ah, que de merveilles promises. Et summum de summum, nous éradiquerons le sida par où il est arrivé.
C'est tellement beau ce que vous venez de dire, cher confrère. C'est presque de la poésie. Et j'ai envie de pleurer. Croyez-vous qu'il existera un suppositoire pour guérir les maladies de l'âme ?
Tout dépend, cher confrère, de l'endroit où vous situez l'âme. Bonjour, docteur !
Je vous souhaite le bonjour, docteur !
Comment allez-vous, cher confrère ?
On le peut mieux, cher confrère. La maladie progresse avec enthousiasme.
Vous me rassurez, j'avais craint un instant que vous ne fussiez en rémission.
J'ai comme une impression de déjà-vu.
Pourquoi vous dites ça, cher confrère ?
Il me semble que nous avons déjà eu cette conversation récemment.
Ah, vous croyez ?
J'en suis à peu près sûr, cher confrère. J'ai une excellente mémoire et il me semble vous avoir déjà entretenu de mon mauvais état de santé.
N'était-ce point plutôt hier ?
« Effectivement, hier aussi, mais aujourd'hui également. »«
Serait-ce à dire, cher confrère, que nous n'avons que ce seul sujet de conversation ?»«
Déformation professionnelle, sans doute, cher confrère. Je suppose que les plombiers parlent plomberie, les charcutiers charcuterie, les mécaniciens mécanique. C'est curieux, pourquoi dit-on mécanique et non point mécaniquerie ?»
Je suppose, cher confrère, que les académiciens décident de tout cela en toute connaissance de cause. »
Si vous voulez mon avis, cher confrère, ces gens-là manquent cruellement de logique.
Cela fait partie du charme de ce genre d'institution, cher confrère. Ces gens-là défendent clairement leurs intérêts. Si l'orthographe, la syntaxe et le vocabulaire devenaient logiques, tout leur monde s'écroulerait comme un château de cartes par grand vent.
Vous avez raison, cher confrère. mais il faudra qu'un jour un comité de logiciens vienne mettre bon ordre dans cette pagaille littéraire. Ce qui pouvait se concevoir dans l'approximation des siècles passés ne saurait se poursuivre en ces temps de haute technicité.
Vous prêchez un convaincu, cher confrère. Toutefois, je trouve à cette subtile confusion un certain charme que je qualifierais de poétique.
Pah ! Poésie ! Quel mot infect !
Soit, cher confrère, je suis comme vous un fervent partisan d'une conception logique et technologique, ne laissant aucune part ni au hasard ni au désordre. Mais il faut bien laisser une petite part au rêve, ne croyez-vous pas ?
Le rêve ? Vous n'y pensez pas sérieusement, cher confrère ? Et pourquoi pas l'anarchie, le délire, la subversion ?
Bien sûr, cher confrère, je comprends votre désarroi, même je le partage. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que l'homme n'est nullement prêt à se plier à des règles trop contraignantes. Cela viendrait, j'en suis convaincu, mais il faudra évidemment du temps et infiniment de patience pour rassembler harmonieusement tout ce qui a été dispersé au fil des âges.
Vous me voyez presque rassuré, cher confrère. Mais néanmoins, fort mari qu'il faille attendre si longtemps avant d'apercevoir enfin une lueur de logique dans ce ciel si chaotique.
Mais, cher confrère, la patience n'est-elle pas précisément la vertu cardinale de tout scientifique ?
Lorsqu'un mécanicien rencontre un charcutier, de quoi parle-t-il ?
Je suppose que le mécanicien parle de mécanique et le charcutier de charcuterie, chacun essayant de convaincre l'autre du bien fondé de son discours.
C'est donc pure perte d'énergie ?
Oui, sans doute, avec peut-être une nuance subtile.
Laquelle, cher confrère ?
Au bout d'un temps variable de discours vains et d'écoutes fallacieuses, ils finiront sans doute par dériver sur un sujet commun à tous les hommes, de toutes les races, de tous les âges et de toutes les cultures.
Les femmes, bien sûr ! Cette engeance du diable dont nous détestons la présence, mais dont nous recherchons la compagnie.
Eh oui, cher confrère, vous avez deviné. Créateur du diable, peut-être, mais dont la proximité peut parfois se révéler positivement divine. Tout n'est que question de circonstances.
Cher confrère, permettez-moi de vous faire remarquer que ce que d'aucuns appellent l'amour, le bonheur, n'est rien de plus qu'une sécrétion programmée et régulée de neuropeptides, opiacés endogènes, que l'on pourrait aisément remplacer par un psychotrope quelconque issu de notre pharmacopée ordinaire. Le monde n'a nul besoin de fariboles d'excentricité ou de démonstrations sirupeuses. De la logique, de la rigueur et de la technicité, voilà ce dont il a besoin.
Il n'empêche, cher confrère, que quelques heures passées en compagnie d'une femme à la fois belle, douce et compréhensive...
Faribole et bouleversée, vous dis-je.
Permettez-moi d'insister, cher confrère.
Non, vous dis-je, je ne veux rien connaître de vos dépravations.
Je vous trouve un peu dur, cher confrère. Je suis persuadé que dans votre folle jeunesse...
Brisons-la, docteur. Ma jeunesse, qu'elle fût folle ou pas, ne vous concerne nullement.
J'en conviens, cher confrère. Je ne voulais nullement empiété sur votre intimité.
Soyez-en remercié, cher confrère.
Je désirais seulement renouveler une conversation que je trouvais mourante.
La mort ! La mort, cher confrère ! Voilà un sujet digne d'intérêt qui, à lui seul, procure des heures et des heures de dissertation exaltante.
Mais précisément, cher confrère, l'amour et la mort se rejoignent. Othello n'a-t-il pas tué Desdémone par amour ?
Par jalousie !
Je vous l'accorde. Mais Roméo et Juliette ?
Un malentendu ! Juliette n'était qu'endormie et l'autre imbécile l'a crue morte et s'est suicidée. Je crois aisément le proverbe qui prétend que l'amour rend stupide.
Je vous trouve bien amer, cher confrère. Logique et technicité sont de bien tristes conseillères.
Allons, allons, ne me dites pas que votre esprit scientifique se serait laissé corrompre par la médiocrité du quotidien. Vous valez mieux que cette caricature de vie dont se répètent les imbéciles opprimés par la télévision et les discours tendancieux de politiciens conformistes.
Quand disiez-vous que vous alliez mourir ?
Bientôt, très bientôt.
Je ne sais vraiment pas si vous allez me manquer, cher confrère.
Allons, messieurs, il est temps de regagner vos chambres. C'est l'heure de vos médicaments.
Bien, docteur, nous bien, y docteur. Allons.
Et cessez d'appeler tout le monde docteur. C'est agaçant. Il n'y a qu'un seul médecin dans ce pavillon. Le chef du service de psychiatrie.
Oh, je vous trouve très dur avec nous, docteur.
Oh,
Laissez, cher confrère, il faut lui pardonner, c'est une femme.
Dans vos chambres, immédiatement.
Bien, docteur.
Bien, docteur.
Bonsoir, docteur.
Je vous souhaite bonsoir, docteur.
Dans vos chambres.
C'était Quoi de neuf, docteur ? Une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre dans trois mondes, l'optimiste Charles Hansé, le pessimiste Philippe Mitre, la surveillante Suzy Leblanc. Les scénarios, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, rdv.com. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retournez au boulot, vous rallumez la télé ou continuez à écouter Radio Caraïbe, le son de la différence. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur une Nerea www.nerea.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des Trois Coups. Au revoir.